Ce soir-là, Albert avait découvert des fruits dans un cajot sur le trottoir en revenant des grands boulevards. Il éliminait les parties abîmées et préparait un jus avec la pulpe. Le bouillon de viande tous les jours, c'était lassant à la fin et il n'avait pas beaucoup d'imagination. Édouard, lui, avalait ce qu'on lui donnait, pour ça, il n'était pas difficile. Albert s'essuya les mains à son tablier, se pencha sur la feuille. Sa vue baissait depuis son retour de la guerre. Il aurait eu les moyens, il aurait acheté des lunettes. Il dut se rapprocher. Il lut. Le 11 novembre prochain, à Paris, la France érigera le tombeau d'un soldat inconnu. Participez, vous aussi, à cette célébration et transformez ce noble geste en une immense communion nationale par l'érection, le même jour, d'un monument dans votre propre ville. Toutes les commandes pourraient arriver avant la fin de l'année, en conclut Édouard. Albert hocha la tête d'un air navré, complètement dingue, et il retourna à son jus de fruits. Au cours de leurs interminables discussions sur le sujet, Édouard fit valoir à Albert qu'avec le produit de ses ventes, tous deux pourraient partir aux colonies, investir dans des affaires prometteuses, se mettre pour toujours à l'abri du besoin. Il lui montra des images découpées dans des revues ou des cartes postales rapportées par Louise, des vues de la Cochinchine, des exploitations forestières avec, devant les billes de bois que soulevaient des indigènes, des colons casqués, conquérants, repus comme des moines, au sourire suffisant. Des voitures européennes avec des femmes dont les longs foulards volaient au vent traversaient des vallées ensoleillées en Guinée, et les fleuves du Cameroun et les jardins du Tonkin où des plantes grasses débordaient de coupes en céramique, et les messageries fluviales de Saïgon où resplendissaient les enseignes des colons français, et le splendide palais du gouverneur, le square du théâtre photographié au crépuscule avec des hommes en smoking, des femmes en longues robes du soir, leur fume-cigarette, les cocktails frais, on croyait entendre la musique de l'orchestre. Là-bas, la vie semblait facile, facile les affaires, les fortunes vite construites, la dolence des climats tropicaux. Albert faisait semblant de n'y prêter qu'un intérêt touristique, mais il restait un peu plus longtemps que nécessaire sur les photographies du marché de Conakry, où de grandes jeunes femmes noires, les seins nus, sculpturales, déambulaient avec une nonchalance d'une sensualité folle. Il essuyait de nouveau ses mains à son tablier et retournait à sa cuisine. Il s'arrêta soudain. « Et puis, pour imprimer ton catalogue et pour l'envoyer dans des centaines de villes et de villages, qu'est-ce que t'as comme argent? Dis-moi. » À de nombreuses questions, Édouard avait trouvé la parade, à celle-ci, jamais. Pour enfoncer le clou, Albert alla chercher son porte-monnaie, étala ses sous sur la toile cirée et les compta. « Moi, je peux t'avancer 11 francs 73. Alors toi, t'as combien ?» C'était lâche, cruel, inutile, blessant. Édouard ne possédait rien. Albert ne profita pas de l'avantage. Il rangea sa monnaie et retourna au frichti. Ils ne s'adressèrent plus la parole de la soirée. Arriva le jour où Édouard fut à bout d'arguments, sans avoir convaincu son camarade. C'était non, Albert n'y reviendrait pas. Le temps avait passé, le catalogue presque achevé ne demandait plus que quelques ajustements pour être imprimé et envoyé dans la nature, mais tout le reste était à faire, l'organisation, un énorme travail et pas un sou devant soi. Ce qui restait à Édouard de tout ça, une série de dessins inutiles, il s'effondra. Cette fois, pas de larmes, de mauvaise humeur ou de mauvaise tête, il se sentait insulté. Il se faisait recaler par un petit comptable au nom du sacro-saint réalisme. L'éternelle lutte entre les artistes et les bourgeois se répétait là, c'était sur des critères à peine différents, la guerre qu'il avait perdue face à son père. Un artiste est un rêveur, donc un inutile. Édouard croyait entendre ces phrases derrière celles d'Albert. Devant l'un comme devant l'autre, il se sentait rabaissé au rang d'assisté, un être futile qui se consacre à des activités vaines. Il s'était montré patient, pédagogue, convaincant, mais il avait échoué. Ce qui le séparait d'Albert, ce n'était pas un désaccord, c'était une culture. Il le trouvait petit, mesquin, sans envergure, sans ambition, sans folie. Albert Maillard n'était qu'une variante de Marcel Péricourt. C'était le même, l'argent en moins. Ces deux hommes remplis de certitude balayaient ce qu'Édouard avait de plus vivant. Ils le tuaient. Édouard hurla, Albert résista, ils se disputèrent. Édouard tapa du poing sur la table, en fusillant Albert du regard et en poussant des rugissements rauques et menaçants. Albert beugla qu'il avait fait la guerre, qu'il ne ferait pas la prison. Édouard renversa l'ottomane, qui ne survécut pas à l'agression. Albert se précipita, il y tenait à ce meuble, la seule chose un peu chic dans ce décor. Édouard poussait des cris rageurs d'une puissance inouïe, avec des torrents de salive qui giclaient de sa gorge ouverte, tout cela montait du ventre, comme un volcan en éruption. Albert ramassa les morceaux d'ottomane, en disant qu'Édouard pouvait bien casser toute la maison, que ça changerait rien, qu'aucun d'eux n'était fait pour ce genre d'affaires. Édouard continua de hurler en boitant à grands pas dans la pièce, explosa une vitre avec son coude, menaça de jeter au sol le peu de vaisselle dont il disposait. Albert lui sauta dessus, le saisit à la taille, ils tombèrent et roulèrent au sol. Ils avaient commencé à se haïr. Albert, hors de lui, frappa violemment à la tempe Édouard qui, d'une ruade dans la poitrine, l'éjecta contre le mur où il faillit s'assommer. Ils furent debout, face à face, au même instant. Édouard gifla Albert, qui lui répondit par un coup de poing, en pleine figure. Or, Édouard était face à lui. Le poing fermé d'Albert s'enfonça dans la béance de son visage, quasiment jusqu'au poignet, et s'y figea. Albert, épouvanté, regarda son poing englouti dans le visage de son camarade, comme s'il avait traversé sa tête de part en part, et au-dessus de son poignet, le regard stupéfait d'Édouard. Les deux hommes restèrent ainsi quelques secondes, paralysés. Ils entendirent un cri, tous deux se tournèrent vers la porte. Louise, la main sur la bouche, les regardait en larmes. Elle sortit en courant. Ils s'étaient dégagés l'un de l'autre, ne sachant quoi dire. Ils s'ébrouèrent maladroitement. Il y eut un long moment de gêne coupable. Ils comprirent que c'en était fini de tout. Leur histoire commune ne pourrait jamais dépasser ce point logé dans ce visage comme s'il venait de le crever. Ce geste, cette sensation, cette monstrueuse intimité, tout était exorbitant, vertigineux. Ils n'avaient pas la même colère l'un et l'autre, ou elle ne s'exprimait pas de la même manière. Édouard fit son bagage le lendemain matin. C'était son havresac. Il ne prit que ses vêtements, n'emporta rien d'autre. Albert partit à son travail sans avoir trouvé un mot à dire. Sa dernière image d'Édouard fut son dos, alors qu'il rangeait son sac, très lentement, comme quelqu'un qui ne se décide pas à s'en aller. Toute la journée, sa réclame sur le dos, Albert arpenta le boulevard en roulant des pensées tristes. Le soir, juste un mot, merci pour tout. L'appartement lui sembla vide, comme sa vie au départ de Cécile. Il savait qu'on se remet de tout, mais depuis qu'il avait gagné la guerre, il avait l'impression de la perdre un peu plus chaque jour.